Bonsoir à toutes et à tous. Taxe GAFA contre taxe Bacchus. Donald Trump a initié un bras de fer hier avec la France en menaçant de frapper durement les importations de vin aux États-Unis. Bruno Le Maire lui répond aujourd'hui sur les raisons de la taxe française sur les géants du numérique. Emmanuel Macron était en Tunisie aujourd'hui pour assister aux obsèques du président belge Haïd Essebsi. Une présence importante pour la diplomatie française, mais aussi pour le président français lui-même. On vous expliquera pourquoi. Plusieurs centaines d'opposants arrêtés en Russie avant et pendant une manifestation dans les rues de Moscou. Nouvel épisode de la répression contre ce mouvement qui réclame plus de démocratie dans les élections locales. Manifestation également en Colombie où toutes les villes du pays étaient mobilisées pour dire leur inquiétude après une vague d'assassinats ciblés contre des activistes politiques. Podium bousculé sur le Tour de France. Le Français Julien Alaphilippe en descend. Le Colombien Egan Bernal s'y installe confortablement. Le point sur l'avant-dernière étape avant le grand final sur les Champs-Élysées. Ce sera tout à l'heure dans le journal du Tour. Enfin, si vous n'avez jamais eu l'idée de faire et encore moins de manger de la glace aux rillettes. Écoutez bien le reportage à la fin de ce journal. Cette idée a sauvé l'exploitation d'un couple d'éleveurs sartois. On vous raconte leur histoire. Si vous vous en prenez à mes entreprises numériques, je m'en prendrai à vos bouteilles de vin. Voilà dans les grandes lignes le résumé du conflit qui oppose depuis hier la France et les États-Unis après la mise en place de la taxe GAFA en France et les menaces de Donald Trump hier soir contre ce pilier de l'économie française qu'est le vin. Le président américain envisage de le taxer en représailles à la taxation de ces géants du numérique. Une attaque qui a poussé le ministre de l'économie à réagir cet après-midi. Pour Bruno Le Maire, Donald Trump se trompe de cible et il ne faut pas mélanger tarifs douaniers et taxes numériques, Bastien Munch.
Ce sont deux sujets complètement différents selon Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie et des finances ne comprend pas pourquoi les États-Unis se sentent menacés par cette taxe sur le numérique.
Il n'a jamais été dans l'intention de la France de cibler spécifiquement des compagnies américaines. Nous avons dans le champ de cette taxe des compagnies américaines, bien sûr, mais nous avons aussi des compagnies européennes, nous avons aussi des compagnies françaises et nous avons aussi des compagnies chinoises. Donc vous voyez bien qu'il n'y a absolument aucune discrimination dans la taxe nationale française qui sera mise en œuvre dès cette année 2019.
Une taxe française provisoire en attente d'un réel accord international avec l'OCDE qui rassemble les pays les plus développés. Accord rendu encore plus fragile par les dernières déclarations de Donald Trump sur Twitter. Mais Bruno Le Maire veut rester confiant.
Depuis 24 mois, il y a des pas de géants qui ont été faits. Maintenant, il reste le tout dernier pas. C'est le plus difficile, celui d'un accord des 7 chefs d'État au G7 de Biarritz sur une taxation universelle des activités digitales.
Et si les négociations se révèlent concluantes au G7 de Biarritz fin août, un accord international pour taxer les géants du numérique pourrait naître dès la fin d'année prochaine.
La météo n'est pas tendre avec l'est de la France. 7 départements sont toujours en vigilance. Orange, pluie, inondation ce soir. Il s'agit du Doubs, du Jura, de l'Ain, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Vigilance maintenue au moins jusqu'à demain 6h. Alerte en revanche levée pour les 15 autres départements que Météo France gardait à l'œil jusqu'ici. Notez aussi qu'en Pays Basque, 18 plages sur 35 ont été fermées à la baignade, dont 3 à Biarritz et 6 à Anglette. Des stations d'épuration saturées débordent actuellement dans les égouts qui eux-mêmes se vident dans l'océan. Restez donc plutôt au sec si vous êtes dans la région. Emmanuel Macron lui était en Tunisie aujourd'hui pour assister à la mi-journée aux obsèques nationales du président belge Haïd Essebsi, mort jeudi à l'âge de 92 ans. Une présence pas seulement diplomatique pour Emmanuel Macron, en tout cas c'est l'impression qu'a donné son discours lors des funérailles où il a même évoqué une affection toute particulière filiale à l'égard du président tunisien. Pas si surprenant quand on connaît la relation particulière qu'entretenaient les deux dirigeants Michel Picard.
L'amitié entre Emmanuel Macron et Béji Caïd Essebsi, d'un demi-siècle son aîné, peut paraître improbable, mais elle est née de rencontres franches. Reçu à l'Élysée, le nonagénaire tunisien avait su utiliser des mots d'esprit et des références littéraires qui, selon leurs entourages respectifs, ont fait mouche avec le président français. L'an dernier, en visite d'État à Tunis, Emmanuel Macron avait souligné ses rapports rares et intenses avec le président défunt. Puis les deux hommes se sont ensuite à maintes reprises rencontrés sur des sommets internationaux. La connaissance fine des milieux diplomatiques et le sens du consensus du locataire de Carthage lui avaient permis de ramener la paix dans le monde politique tunisien à l'heure des tensions post-révolutionnaires. Cette vision d'une Tunisie apaisée a permis de maintenir les intérêts tricolores dans le pays, car les deux hommes en étaient bien conscients, une maturité politique va de pair avec un développement économique. Et là, le président tunisien n'a eu de cesse de réclamer à Emmanuel Macron et à la France d'en faire davantage, tout en saluant les nombreux soutiens affichés par Paris. Tunis, Michel Picard, France Inter.
Et Emmanuel Macron qui vient d'annoncer à son retour en France qu'il recevrait Vladimir Poutine à Brégançon. Ce sera le 19 août prochain. En Russie, justement, plusieurs milliers de personnes ont à nouveau défilé dans les rues de Moscou aujourd'hui pour dénoncer le rejet de plusieurs candidatures d'opposants à une élection municipale en septembre prochain. Manifestation qui fait écho à celle de la semaine dernière qui avait rassemblé 20 000 personnes et qui a donné lieu, une fois encore, à une vaste répression. Plus de 600 personnes ont été arrêtées aujourd'hui, à la fois avant et pendant le rassemblement. Léo Vidal-Giraud.
Ce sont plusieurs milliers de personnes, entre 3 et 10 000. Difficile d'estimer leur quantité avec plus de précision, car la manifestation s'est déroulée un peu au hasard dans les rues étroites du centre-ville de Moscou, sans organisation et sans véritable chef. Les leaders de l'opposition ont pratiquement tous été arrêtés pendant la semaine, hier soir ou bien ce matin en sortant de chez eux, ou encore dès le début de la manifestation. Malgré cela et malgré la promesse d'une répression policière féroce, les moscovites sont descendus dans la rue pour protester. Et ce qui compte pour eux, ce n'est pas tant l'enjeu, finalement très limité, de ces élections, mais plutôt le cynisme avec lequel les candidats d'opposition en ont été évincés. Un cynisme qui est ressenti par les moscovites comme une véritable insulte.
C'est un crachat à la face du peuple, le pouvoir ne tient que par le mensonge. Les gens finiront par se rebeller à la fin, nous aurons la liberté comme en France après votre révolution.
Dès le début de la manifestation, la police a arrêté les participants par dizaines au hasard dans la foule. Il y a eu des mouvements de panique, les manifestants se sont dispersés dans les rues autour de la mairie, puis le cortège s'est plusieurs fois reformé. À l'heure actuelle, il a éclaté en plusieurs petits groupes qui continuent d'arpenter le centre-ville de Moscou, de moins en moins nombreux alors que la police, elle, poursuit les interpellations. Selon les dernières informations, plus de 600 personnes ont déjà été arrêtées, un chiffre qui est appelé à grandir dans les heures à venir. Moscou, Léo Vidal-Giraud. France Inter.
Les Colombiens manifestaient eux aussi il y a quelques heures, des manifestants inquiets après une vague d'assassinats ciblant directement des activistes et d'anciens guérilleros aujourd'hui démobilisés. Au total, dans les régions rurales du pays, plus de 700 personnes ont été tuées depuis la signature en 2016 de l'accord de paix avec la guérilla des FARC. Cette série de meurtres politiques a provoqué une vaste mobilisation dans toutes les villes du pays. Le reportage de Marie-Ève de Teuf.
Les Colombiens crampés sont descendus dans la rue. À Bogota, comme partout dans le pays, les manifestants brandissaient à bout de bras des portraits des leaders paysans et autres activistes assassinés. Ici, on parle de leaders sociaux. Une manifestante explique.
Je suis là comme tout le monde parce que nous ne voulons pas qu'il y ait encore des leaders assassinés. Nous voulons la paix et nous ne voulons pas que le gouvernement continue à nier les assassinats.
À en croire le gouvernement et la droite dure, les narcotrafiquants et le crime organisé seraient les seuls coupables de la violence. Le président Iván Duque a toutefois au dernier moment décidé de soutenir la manifestation, un geste qui n'a pas convaincu tout le monde. Enrique.
Il dit qu'il fait tout pour la paix, tout pour protéger les leaders sociaux et les paysans qui réclament leurs terres. Mais nous sommes beaucoup à ne pas croire parce que nous savons que les faits le contredisent.
La manifestation de vendredi pourrait marquer un tournant, comme l'explique Yann Basset, professeur de sciences politiques.
Depuis l'accord de paix, une manifestation très importante dans tout le pays qui marque une prise de conscience vis-à-vis de ce problème des leaders sociaux qui s'assassinent dans les régions.
Reste à voir si la prise de conscience se traduit en action. Marie-Ève de Teuf, à Bogota pour France Inter.
Le Brexit représente une énorme opportunité économique. Boris Johnson en est convaincu, ça en fait au moins un. Pour le nouveau Premier ministre qui dévoilait aujourd'hui ses priorités pour les mois à venir, quitter l'Union européenne permettra de faire des choses que nous n'avons jamais été autorisés à faire pendant des décennies. Il a notamment promis de nouveaux investissements en faveur des régions qui ont voté pour le Brexit en 2016. Il souhaite aussi la suppression du backstop, c'est cette clause de l'accord avec l'Union européenne qui est censée permettre d'éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Une mesure qui, selon Boris Johnson, vise à diviser le Royaume-Uni. Direction le Tour de France pour l'avant-dernière fois cette année, avec aujourd'hui une victoire d'étape italienne avant sans doute une victoire finale colombienne. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
En revanche, pas de podium final malheureusement pour les Français.
Oui, les supporters étaient nombreux au bord des routes pour soutenir Julian Alaphilippe aujourd'hui encore, mais rien n'y a fait. 24 heures après avoir perdu son beau maillot jaune, le coureur de Saint-Amand-Montrond a de nouveau craqué sur les pentes de Val Thorens, dans cette étape remportée par le vainqueur du Tour 2014, Vincenzo Nibali, dernier escapé de l'échappée du jour, forte de 29 coureurs, qui a signé en solitaire le 6e succès de sa carrière sur le Tour. Julian Alaphilippe a craqué à 13 km du sommet, à bout de force. Il a franchi la ligne un peu plus de 3 minutes après les favoris.
Parce que sans mon coéquipier, j'aurais explosé. J'aurais terminé un petit quart d'heure derrière tout le monde, je pense. C'est dans mon tempérament un peu, d'être comme ça, un peu, c'est un peu tout ou rien. Et voilà, j'étais deuxième au général avant le départ ce matin. Allez, si j'avais fini deuxième encore, si je faisais 50e, c'était la même chose pour moi.
C'est à la 5e place du général que le coureur de Saint-Amand-Montrond va terminer demain à Paris. Egan Bernal, 22 ans, sera demain le premier Colombien de l'histoire à remporter le Tour. Quatrième de l'étape devant son coéquipier Geraint Thomas. Il a profité du travail de ses équipiers et de la formation Jumbo de Kruijswijk qui a accéléré pour aller chercher la troisième place du classement. Vainqueur du Tour de l'Avenir il y a 2 ans, de Paris-Nice, du Tour de Suisse cette année. Le coureur de Zipaquirá dans la grande banlieue de Bogota à 2600 mètres d'altitude va faire mieux que son illustre aîné Nairo Quintana, 2 fois deuxième du Tour et vainqueur d'étape sur cette grande boucle, Egan Bernal.
Je suis vraiment très content, je ne réalise pas vraiment. Gagner le Tour de France, c'est quelque chose d'unique pour la Colombie.
Egan Bernal, plus jeune vainqueur du Tour de France avec un maillot jaune sur les épaules devant Geraint Thomas qui est tombé dans les bras de sa compagne Egan Bernal et de son papa juste après l'arrivée. Ineos va remporter son 7e Tour en 8 éditions avec 4 coureurs différents et surtout avec le plus jeune d'entre eux, Nicolas Portal, directeur sportif d'Ineos.
On l'a fait et puis en plus on fait 1 et 2 donc c'est juste fantastique. C'est notre course et mais je pense que c'est vrai que plus que tout là c'est la joie d'Egan quand même. Il a 22 ans, je sais pas si c'est le coureur le plus jeune, mais en tout cas, ce sera forcément un des plus jeunes à gagner le Tour. Le premier Colombien à gagner le Tour de France, c'est quand même incroyable. Voilà, on a une super équipe, on est les meilleurs.
Nicolas Portal avec Alexandre Vaux.
Globalement, cette dernière étape peu raccourcie a donc tenu toutes ses promesses.
Oui, après 3 semaines de course, les favoris ont douché les espoirs tricolores dans cette dernière étape de 59 kilomètres, usante avec 33 kilomètres d'ascension. Tony Galopin, coéquipier de Romain Bardet, avait pris la bonne échappée dans cette journée difficile. Une journée si difficile que cela, la réponse du coureur d'AG2R.
Non, même pas mal. C'est du cinéma. Non, ouais. Plus c'est court, plus c'est dur, hein. Franchement, je me suis battu aussi longtemps que je pouvais. Après, j'étais avec des grimpeurs. J'étais payé, mais bon, je me suis battu et Romain a gardé ce maillot. Donc, la journée est bonne.
Romain Bardet en difficulté aujourd'hui a franchi la ligne à plus de 3 minutes du vainqueur du jour. La victoire de Nibali, conjuguée à la 2e place de Valverde, la 3e de Landa, ont validé la première place au classement des grimpeurs de Romain Bardet qui va ramener le maillot à poids de meilleur grimpeur à Paris.
Vous savez, il y a très peu de coureurs qui participent au podium final sur les Champs-Élysées. Donc je suis vraiment content d'y être pour ce maillot. On part avec des ambitions, mais là, quand celle-ci s'effondre, il faut savoir vite rebondir. Je pense que c'était une belle école de la vie. Et, allez, je suis fier de ne pas avoir baissé les bras.
Après avoir rêvé de victoire tricolore pendant 3 semaines, le public devra se contenter de ce podium. Après avoir rêvé pendant 3 semaines complètes, Lorraine qui veut retenir le super tour des Français et celui de Thibaut Pinot.
Je pense que c'est le panache de Julien et Philippe avec ses jours en jaune. Et puis, évidemment, les victoires de Thibaut. Pour penser à lui, j'ai marqué Thibaut en thème. Enfin, on voit vraiment qu'il a des émotions et du coup, ça nous transcende. Et du coup, c'était un tour assez intéressant.
Et demain, dernière étape du Tour de France. Elle emmène les coureurs de Rambouillet aux Champs-Élysées sur 128 km. Départ tardif à 18h05.
Merci beaucoup, Fabrice Rigobert. 19h13 sur France Inter. Vous vous apprêtez peut-être à dîner. Ça tombe bien, on va vous parler d'un produit à mi-chemin entre l'entrée et le dessert, la glace aux rillettes. Derrière ce mélange audacieux se cache en fait une jolie histoire, celle de Patrice Rioté et de sa femme, couple d'éleveurs de vaches laitières de Parçay-sur-Sarthe. Pendant 4 ans, ils ont subi de plein fouet la crise laitière avant d'avoir cette idée géniale l'an dernier qui a sans doute sauvé leur exploitation, Christelle Caillot.
Et oui, car il y a 5 ans, le couple vendait sa production de lait, mais avec la crise, ils n'arrivaient pas à en vivre, d'où l'idée de faire de la glace. Et forcément, quand Patrice Rioté a fait le printemps des rillettes...
On nous a dit, quand on fait une transformation, en fait, il faut toujours innover, il faut essayer d'aller de l'avant, toujours développer des nouveaux produits pour attirer des nouvelles personnes, des nouveaux consommateurs. Dans des discussions entre copains et autres, on s'est dit, pourquoi pas ne faire une glace à la rillette.
Et ce qui, au départ, pouvait surprendre, voire dégoûter certains, a fait un carton. Patrice Rioté a même appris un nouveau mot.
En fait, quand on a sorti cette glace-là, on a commencé à la faire goûter et on a fait ce qu'on appelle un good buzz ou un buzz, enfin voilà, j'ai appris ce terme-là, un buzz départemental voire national. Aujourd'hui, et ben cette glace à la rillette, nous la vendons régulièrement. C'est vraiment un produit d'appel.
En fait, sur les 30 litres de glace écoulés par semaine, la vanille, le chocolat et les fruits restent les incontournables avec une vente de proximité.
Les petits commerces de quartier. On travaille aussi avec des traiteurs, des restaurateurs, des restaurations collectives, ben des collèges, des lycées, des écoles maternelles et c'est vraiment des marchés qui nous plaisent bien. Ouais.
Des ventes directes à la ferme sont également proposées tous les vendredis soirs.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Les orages seront encore localement forts jusqu'en milieu de la nuit. Entre le centre-est et l'est du pays, l'activité orageuse va diminuer en seconde partie de nuit. Demain matin, vous retrouverez des pluies soutenues près des frontières de l'est et du nord, ainsi qu'en Corse. Le ciel sera encore bien nuageux de la région Rhône-Alpes à la Bourgogne en remontant vers la Picardie. Prévoyez aussi une forte nébulosité au pied des Pyrénées. Et partout ailleurs, le temps sera plus calme avec d'assez belles éclaircies. Le soleil va gagner du terrain l'après-midi. Seules les régions très proches des frontières du nord et de l'est conserveront un temps nuageux et faiblement pluvieux. Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 80 km/h. Côté température, les minimales en fin de nuit évolueront généralement entre 12 et 17 degrés, comptez 18 à 21 près de la Méditerranée. Les maximales seront une nouvelle fois inférieures aux moyennes de saison avec des valeurs comprises entre 21 et 26 degrés. Prévoyez 26 à 30 dans le sud.